Une entreprise dont on parle beaucoup, Pierre-Yves, Good Food.
As-tu déjà essayé, Paul, ces boîtes à lunch qu'on livre à la maison, qu'on prépare de différentes compagnies?
Oui, je l'ai, mais pas, c'était pas Good Food, c'était
une autre compagnie.
Une autre compagnie, comment ça s'appelait déjà? Je me rappelle plus.
Peu importe, la perception, c'était quoi?
Au départ, ça a l'air génial. Puis après ça, tu te dis, ben pourquoi est-ce que je commande dans une boîte une quantité que je pourrais moi-même aller chercher et fabriquer chez nous?
Donc, finalement, c'est la solution clé en main qu'on achète, mais il y a un prix à ça.
Mais c'est ça.
Et il faut convaincre le client, comme tu viens de le dire, les gens acceptent une première fois, une deuxième fois. Et pour faire monter les ventes, il faut convaincre les gens de réessayer. Donc, il faut mettre beaucoup de marketing. Et là, quand on regarde les états financiers, on voit qu'au deuxième trimestre, on a fait 36,6 millions de revenus, mais 6,6 millions de pertes. Pourquoi? Parce qu'on a multiplié les frais de vente et d'administration. Tu sais, parfois, pour vendre une boîte de plus, il faut faire plus de promotions, convaincre le voisin, lui donner des gratuités ou des avantages. Et c'est là qu'on est rendu. On doit atteindre une masse critique qui accepte le produit de facto et pas se faire dévorer par les épiceries qui pourraient opter pour la même stratégie, les concurrents. Donc, l'action a beau avoir pris 34% depuis un an, on ne fait pas encore d'argent chez Good Food et le temps presse. Il faut éventuellement être capable de dire, mais écoutez, on a vendu des actions, l'action fait du rendement, oui, mais on va chercher une masse critique assez grande de gens réguliers. C'est comme si une épicerie qui disait, je veux que tu sois abonné à mon épicerie à l'année longue ou très souvent. Et mais toi, t'es pas obligé d'avoir de la fidélité envers une seule épicerie, mais c'est le même principe ici. Est-ce que les gens vont mettre ça dans leurs habitudes pour la marge supplémentaire dans le prix?
La tarification en fonction des revenus. Il y avait un article très intéressant dans la presse d'aujourd'hui, notamment sur les transports en commun. Autrement dit, le prix d'une course varierait selon vos revenus.
Et là, évidemment, on parle de tranches de revenus favorisés, défavorisés, peu importe, mais on comprend étudiants, on comprend parfois personnes âgées, ça en lien avec les revenus, mais en fonction des revenus, là, on tombe dans quelle sera la limite? Parce qu'il faut comprendre qu'au Québec, on a déjà le crédit d'impôt pour solidarité, crédit d'impôt pour les personnes vivant seules, allocation canadienne pour enfants du fédéral, le crédit TPS du fédéral, allocation famille aussi, garderie subventionnée, contribution supplémentaire des garderies subventionnées pour les gens à revenus plus élevés, taux d'imposition progressif. En somme, notre société aide de plus en plus les démunis et taxe de plus en plus les gens qui ont des revenus. Alors, la question, c'est l'effort là-dedans, de m'emmener la personne qui travaille, qui peut atteindre jusqu'à 53,31% d'impôt sur le prochain dollar. Se dit de m'emmener, coudonc, je suis en train de travailler les fins de semaine, à me brûler, à faire du 60 heures, pour permettre à d'autres de travailler un peu moins et d'avoir plein d'avantages. Et là, on tombe dans les fameuses courbes de la Ferrière. Les courbes de la Ferrière, c'est un prof qui a étudié, qui a dit, je vais étudier le taux effectif d'impôt, le vrai. Dire à partir de quel revenu on perd des avantages fiscaux et on gagne d'autres avantages ou on paie plus d'impôts. Et dans le fond, il détermine ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Et quand on favorise toujours une classe, si on favorise des gens qui ont moins de revenus encore, et qu'on les aide encore avec une mesure supplémentaire en fonction de l'utilisation de transport, ben il y a ce risque-là qu'il y a des gens qui commencent à se dire, ben je vais frauder ou je n'augmenterai pas mon statut, parce que quand j'augmente mon statut, je baisse mes allocations, je baisse mes crédits d'impôt, j'augmente mon coût de transport. Donc finalement, au net, on m'encourage pas à travailler plus fort, donc on n'encourage pas l'effort. Et si on regarde les dernières statistiques officielles du Québec, qui datent de 2015 quand même, mais sur l'Institut de la statistique, on voit très bien que au niveau des revenus, ben, t'as un fort pourcentage de personnes au Québec qui gagnent moins de 50 000 $. Donc, le taux d'imposition est vraiment spécial, Paul, parce que quand on arrive à 43 055, on tombe à 32,53, à 46 605, 37,12, et après ça, ceux qui sont dans les strates supérieures peuvent aller jusqu'à 49,97 et 53,31. Et là, quand tu travailles pour une pièce, puis t'en reste même pas la moitié.
Ouais, il y a une zone critique. À partir de combien, tu disais?
Ben, le 37,12, il s'atteint à 46 605.
46 000 pour
37%. Mais c'est à 86 105 que tu atteins 41 sur le prochain dollar. Et c'est à 93 000 que tu tombes à 45,71. Mais ceux qui sont entre 40 et 46 605, là, tu passes de 27% à 37%, donc 10% d'augmentation sur le prochain dollar, sur tous les dollars, mais le prochain. Donc, c'est vraiment une question de dire quel genre de société on va atteindre si on commence à surtaxer une catégorie.
Nous allons parler du divorce le plus coûteux probablement de l'histoire. On se dirige vers ça. Jeff Bezos, le grand fondateur et grand patron d'Amazon, qui divorce. Lui, il vaut, à la dernière estimation, 140 milliards.
Ça c'était les deux ensemble, américains, lui et sa femme, bon. Évidemment.
Alors,
là, ils sont séparés.
Alors, madame va prendre combien?
Madame va prendre quand même environ, on dit 36 milliards, mais en fait, on ne sait pas vraiment l'arrangement qu'il y a entre les deux. Là, on parle de la répartition d'Amazon, c'est-à-dire qu'elle va laisser 75% des actions d'Amazon à Jeff Bezos et elle va garder 25%. Et elle lui transfère les droits de contrôle, c'est-à-dire le contrôle de la compagnie, c'est-à-dire les droits de vote. Et il y a une logique derrière ça. Écoute, on doit se le dire, ça a l'air bien beau tout ça, là. Mais derrière les portes closes, ça a dû brasser, mais publiquement, il gère ça de façon quand même très bien. Elle fait un tweet bien calculé sur Internet. « Je suis content d'avoir fini ma relation. Je laisse le contrôle des compagnies à mon ex-mari et je vais lui laisser 75% des actions. » Tu sais, elle s'en tire quand même avec des dizaines de milliards. Et on peut se le dire, des dizaines de milliards, elle vaut plus que plusieurs compagnies.
Absolument.
Sur le S&P 500. Tu sais. Donc, Amazon qui vaut 1 800 $ l'action aujourd'hui, qui a pris 29,42%. L'important dans ce divorce-là, depuis un an, excuse, l'important dans ce divorce-là, c'était de montrer que le contrôle demeurait dans les mains de la personne qui occupait, qui opérait. Maintenant, l'argent, comment c'est réparti entre les deux, c'est pas les affaires de personne. Ce qui nous intéresse comme investisseurs, c'est est-ce que le marché va bien réagir? Ben, le marché a pas paniqué aujourd'hui. Donc, vois ça d'un très bon œil.
Et Fadois, notre recherchiste, m'indique que ça fait d'elle, Mackenzie Bezos, sa femme, ça fait d'elle instantanément la quatrième femme la plus riche du monde.
Mais ça fait surtout de ces deux personnes-là, excuse-moi l'angle comptable, Paul, deux célibataires extrêmement convoités sur le marché de l'amour.
Oui.
Oui, écoute, tu sais, tu as 36 milliards, l'autre, je ne sais pas combien, tu fais le calcul. Ce sont des gens que tu as envie d'inviter un cocktail, tu sais.
Je te félicite, Pierre-Yves. Tu vois toujours le côté.
Mais Paul, c'est sûr que quand quelqu'un a un actif comme ça, écoute, les deux sont intéressants maintenant pour, je sais pas moi, une seconde vie. Voilà. Excuse-moi, je suis un peu mercantile.
Quelqu'un qui tombe sur Jeff ou Mackenzie, là, qui sont libres.
Oui. Doit dire,
est-ce que je peux t'offrir? Est-ce qu'ils forcent pas trop pour ramasser la facture?
Non, j'imagine. Ça doit être incroyable quand même. Hein. 36. Tu sais, Paul, pour vrai, la répartition entre les deux, là. 36 milliards, peu importe l'argent. C'est tellement d'argent pour un seul être humain.
Ça n'a pas de sens.
Il n'y en a plus vraiment.
Ça n'a pas de sens. Quand j'étais jeune, beaucoup plus jeune que toi, évidemment, qui n'était pas né à l'époque, l'homme le plus riche du monde, c'était Jean-Paul Getty, de Getty Oil.
Il valait combien, sais-tu?
Ben oui, il valait 1 700 000 000 $.
Mais en quelle année, ça, Paul?
Dans les années 60.
Mais quand je te dis, 60, Getty, 1 milliard, Paul, as-tu pensé?
Et on disait, lui, là, comme on disait, là, c'est, ça n'a pas de sens. Il fait 1 700 000 000 $, ça n'a aucun sens. Cet homme-là peut se permettre tout. Puis tu te rends compte de Jeff Bezos est à 140 milliards.
Oui, mais Paul, il y a une chose qu'on peut retenir. C'est mon grand-père disait toujours, l'argent, ça fait pas le bonheur, mais ça rend le malheur confortable.
Exactement, bien dit. On voit que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre.
Salut, Paul.
À demain.